Moi, j'ai une question. Est-ce que sur les suites finalement de votre restitution au commanditaire, et donc c'est tout récent, si j'ai bien compris, les propositions sont en cours. Quelle a été la réception du coup de cette posture du coup de sociologue de reformulation de la question, et puis de finalement les mettre un face à leur propre responsabilité, et deux de leur présenter une solution qui est manifestement beaucoup plus compliquée, complexe et coûteuse, j'imagine, à mettre en œuvre que ce à quoi ils auraient pu s'y attendre s'ils s'attendaient déjà à quelque chose.
Très bonne. Très bonne pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a eu finalement, vous savez, les sociologues, on ne fait que rendre visibles des choses que certains acteurs avaient déjà vues avant nous. Mais on a cette compétence de conceptualisation qui fait que le message passe mieux. Et finalement, tout ce que nous, on a mis en avant, les techniciens de terrain, mais les gars qui ont les mains dans les giclées tous les jours pendant tout l'été, tout ça, ils l'avaient vu avant. Mais c'était des opérateurs, des techniciens de terrain qui n'avaient pas tellement la parole. Et j'ai le souvenir, parce qu'on a travaillé aussi dans les Antilles, de techniciens de terrain qui sont vraiment venus nous voir à la fin en disant, mais enfin, il y a des gens qui entendent, nous, les problèmes qu'on a depuis des années. Et dans les Antilles, c'est depuis des décennies où ils disent, mais vous nous demandez d'aller dire aux gens de vider leur gîte larvaire, mais il y a tellement d'autres problèmes, il faudrait intervenir sur ça. Donc il y a cette première dimension-là. La deuxième dimension-là, de bonne acceptation, finalement, elle est super cette question, c'est-à-dire quelle a été l'acceptation du commanditaire vis-à-vis des résultats scientifiques? Ça a été au-delà de nos espérances, c'est-à-dire que il y a ensuite eu une saisine formulée par la Direction générale de la santé pour faire un travail spécifique sur les gîtes larvaires dans l'habitat et dans les espaces urbains. Et aujourd'hui, la Direction générale de la santé est en train de reformuler son plan national et a pris en compte les résultats de ce travail-là. Nous avons eu l'occasion de présenter en fait ce travail en décembre 2015 lors de la grande messe du retour d'expérience à la Direction générale de la santé. Et depuis, notre équipe a été invitée par l'agence régionale Corse, l'agence régionale Rhône-Alpes, l'agence régionale PACA. Quelque part, ça leur a fait du bien. Ils nous l'ont dit. Ils nous ont dit, mais on avait besoin d'entendre ça. Voilà. Par contre, je me suis pas fait d'amis parmi finalement les tenants de l'ingénierie de santé publique classique. Parce qu'on a apporté en fait un regard complètement nouveau. Eux, leur approche était on nous demande de faire en sorte que les populations se mobilisent et ils n'allaient pas voir plus que ça. Et donc, nous, on a apporté un regard qui n'a absolument pas la prétention d'être supérieur, qui est même plutôt inférieur dans le sens où nous, on est parti du terrain, mais qui est en fait désaxé. Et c'est ce regard désaxé qui a apporté la nouveauté dans une problématique qui, je pense, ronronnait un petit peu.
J'avais un petit commentaire sur un des derniers schémas où on voit comme réceptacle au fond d'une sensibilisation ou d'information, c'est juste avant, voilà, de nombreux acteurs professionnels et institutionnels. Donc ça a une vertu pédagogique, on voit où on veut aller. Ce que je me disais en même temps, c'est que tout cela, là, sont aussi des habitants du territoire.
Oui.
Ils sont aussi, ils sont, le jeu d'acteurs est vraisemblablement complexe, parce qu'ils sont eux aussi, je pense aux artisans, aux commerçants, les faiseurs de goût, ils sont aussi porteurs de croyances sur ce qu'il faut faire, ne pas faire. Donc voilà, c'était simplement pour supposer que le jeu d'acteurs est complexe parce qu'on est à la fois dans la grosse bulle centrale et quelque part.
Absolument. Ouais.
Alors moi j'avais une question sur la construction de l'inacceptabilité. C'est-à-dire que on voit bien que le travail qu'on vous a demandé, c'est finalement de comment. Une population vit spatialement, socialement, même idéologiquement, puisque tu as fait appel à la notion d'état-providence. Et dans ton article, tu cites l'argument d'un recul de l'état-providence qui est simultané aux demandes qu'on fait à ces populations d'intervenir et finalement de faire le travail, entre guillemets, que l'état faisait auparavant ou ailleurs. Donc on voit bien que on vous demande de vous intéresser à une population pour savoir comment la faire agir de manière antivectorielle. Mais en même temps, tu nous dis, on peut soit ne pas connaître les actions qui sont mises en œuvre pour faire connaître les problèmes liés à la lutte antivectorielle. On peut connaître mais refuser, ou connaître, accepter mais mal exécuter, mal appliquer. Mais donc tu dis, dans connaître mais refuser, tu dis, il y a une contestation de la légitimité. Donc il y a une construction de l'inacceptable, de ce qui est jugé inacceptable. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur justement cette construction de l'inacceptabilité, comment face à ce que tu appelles comme étant, et que reprenait Benoît sur l'impératif non opposable, comment on construit de l'inacceptabilité face à un impératif non opposable? Voilà.
Ce n'est pas contre le principe de la prévention sanitaire que se dressent les oppositions. D'où la différence entre le registre du politique et du technique. Sur le principe de la lutte anti-vecto, enfin, sur le principe de la prévention sanitaire, les populations adhèrent et sont demandeuses. Là où elles sont dans une posture d'inacceptation, c'est sur la solution technique et la répartition des rôles qui leur est demandée. C'est vraiment la différence, le registre du politique et le registre du technique. Et ce dont on s'est rendu compte aussi sur le terrain, que j'ai pas détaillé parce que je n'ai pas parlé trop longtemps non plus, c'est qu'il y a tout un travail de communication qui mériterait d'être fait, mais qui est difficile à faire sur le recours aux insecticides. C'est-à-dire que si aujourd'hui la puissance publique prône de lutter mécaniquement contre les gîtes larvaires, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, techniquement, même si la loi permettait à un hélicoptère de passer au-dessus du quartier et de déverser du DTT sur le quartier, ce qui légalement n'est plus possible, ça ne serait pas forcément efficace. Parce que l'hélicoptère ne pourrait pas viser chaque soucoupe et de chaque jardin, en fait. Et ça, les populations ne le savent pas. Ça ne leur est pas expliqué clairement, parce que ça devient compliqué quand même comme explication. Nous, on l'a fait sur le terrain. Quand on a fait nos enquêtes interdisciplinaires, on a été très peu rentable en taille d'échantillons, parce qu'une fois qu'on avait fini le travail, les populations ne nous lâchaient plus. On restait, il fallait qu'on leur explique tout ça, elles avaient besoin de plein d'informations. Et donc, ben, on jouait le jeu, parce que c'est aussi un peu une posture de morale, quoi, de chercheur, du donnant-donnant. Et donc, il y a cette dimension-là qui mériterait d'être expliquée aux populations. Il y a l'autre dimension qui est la résistance, la mutation génétique des moustiques, qui a fait qu'ils sont résistants à de plus en plus d'insecticides. Okay. Donc les Antilles connaissent très bien le dossier, c'est-à-dire que les démoustications que je vous ai montrées sur les photos qu'on réalise aujourd'hui autour des cas suspects, ce sont des insecticides dits adulticides, c'est-à-dire qui tuent les insectes adultes, donc les moustiques qui volent. Eh bien, dans les zones de la planète où ces produits ont été énormément utilisés, donc c'est-à-dire les zones tropicales, les moustiques ont muté génétiquement et ça ne leur fait strictement plus rien. Donc ça, c'est aussi une autre dimension qui aujourd'hui n'est pas expliquée aux populations. Et bon, c'est long. En même temps, enfin, comment veux-tu expliquer ce genre de choses? Ça veut dire qu'il faudrait faire des reportages, ou qu'il faudrait faire une plaquette, ou des réunions d'information. Parce que finalement, ce sont des contraintes techniques, tout ça. Mais que les populations ignorent, et donc les populations se placent dans un registre politique, du type « on ne veut pas s'occuper de nous, la puissance publique ne veut pas nous prendre en charge, s'occuper de notre santé, de notre confort, il veut que ce soit nous qui le fassions sur notre temps, avec nos petites mains, voire avec notre argent. »
Oui, mais deux fois dans ton exposé, tu as dit « la population est à la fois gênée mais habituée, elle considère que c'est nuisible mais que c'est utile, qu'il faut de la démoustication dans la zone de Camargue et à un moment de la zone des zones habitées. » Là, ces contradictions-là, chez les mêmes personnes, c'est pas technique d'un côté, politique de l'autre. On voit bien que ça peut être des choses qui sont sur le même registre et qui pourtant sont contradictoires.
Ouais.
Et donc, et pourtant, on peut imaginer que ces personnes n'ont pas un discours aberrant, mais qu'ils les construisent. Et donc, c'était un peu ça le sens de ma question, c'est-à-dire comment elles arrivent à construire un discours de non-acceptabilité opposable à un impératif non-opposable. Hein, c'était.
Non, mais c'est là où je comprends pas. Vraiment, c'est-à-dire que les populations, elles adhèrent totalement au principe de la prévention sanitaire. Donc la non-opposabilité, elle se joue au niveau de lutter contre les moustiques vecteurs. Ça, tout le monde est d'accord, la puissance publique contre les populations. Oui, c'est pas sur l'objectif qu'il y a des accords, c'est sur les moyens.
Mais c'est bien pour ça qu'on a parlé d'un dilemme. C'est-à-dire où on a sanitaire, sécurité, ouais. Environnement, etc. Donc les populations ont à gérer ce dilemme. Effectivement, elles peuvent considérer qu'en termes sanitaires, etc., c'était le choix qu'il faut, mais que pour le choix environnemental, c'est un autre choix, ou le choix du confort, c'est encore un autre choix. Et ces trois choix peuvent être contradictoires, et pourtant, elles doivent se construire un discours cohérent. Parce que aussi, ce qui peut créer, ce qui peut structurer ou stabiliser une opposition, donc la construction d'une inacceptabilité, c'est justement cette cohérence en dénonçant l'incohérence de l'État qui agit de telle manière, contradictoire à telle autre manière, etc. Hein, mais il me semble que si on fait le constat que les publics peuvent avoir des positions contradictoires, mais qu'en même temps on juge qu'elles doivent forcément, quelque part, fabriquer une cohérence malgré ces contradictions, on ne peut pas simplement renvoyer ça à du technique opposé, à du politique, voilà. Enfin, il me semble. Hein.
Alors, pour le coup, justement, l'argumentaire, enfin, si on repart sur... Si on joue avec ces résultats du questionnaire où à la fois ils sont pour, contre, ils ont peur mais ils n'ont pas peur, les populations, là, pour le coup, sont dans un raisonnement... j'aime pas le mot contradictoire, parce que c'est dangereux, il faut éviter de... Mais oui, dans de l'instrumentalisation, et la cohérence n'y est pas. C'est-à-dire que quand tu vois ces chiffres-là, tu vois bien que finalement, l'argumentaire n'est pas cohérent des populations. Qu'elles n'arrivent pas à clairement sortir de ce dilemme santé-environnement. C'est-à-dire à la fois elles veulent des coccinelles, je pousse le trait, hein, mais à la fois elles veulent des coccinelles, et à la fois elles veulent de la démoustication à grande échelle. Et à la fois, elles sont conscientes que la démoustication à grande échelle peut être mauvaise pour la santé, et du coup, elles justifient ces demandes de démoustication à grande échelle qui sont potentiellement mauvaises pour l'environnement et pour la santé par une prévention de risque épidémique. Donc là, pour le coup, la santé arrive à deux niveaux, à la fois pour et contre la démoustication. Je sais pas si je
suis... Si, non, mais c'est un problème compliqué, quoi. Oui. C'est-à-dire que, moi, je ne me satisfais pas de l'idée que des personnes ne fabriquent pas de la cohérence malgré des avis, des opinions qui peuvent être contradictoires dans cette cohérence. Mais il me semble que pour justement asseoir une position contre quelque chose qu'on leur demande, elles sont obligées de se fabriquer une cohérence. Donc après, elles restent à trouver. Voilà. Donc, tu as apporté un élément de réponse quand même avec toute la construction sociale, hein, de ces opinions, c'est-à-dire la construction esthétique avec le jardin, les magazines, etc. etc.
Moi, j'ai peut-être une question pour Benoît, pour revenir sur un peu le dernier résultat que tu nous avais donné. Tu nous as parlé de l'étude qui avait été commandée par le gouvernement japonais sur les trois... Alors, je crois que tu évoquais deux scénarios, mais peut-être qu'il y en a encore plus... est-ce qu'on a un scénario plutôt technocentré ou un scénario plutôt sobre pour finalement quel type de société désirable dans quelques années. Quel est un peu le contexte de commande de cette étude, et est-ce que derrière il y avait l'idée que ça pouvait agir sur les politiques publiques, ou est-ce que ça c'est l'interprétation que toi tu as faite, c'est-à-dire que tu le mets en lien à ce niveau-là, ou c'était vraiment l'objectif de cette étude de pouvoir directement influer sur des dispositifs de politique publique. Et l'autre question qui vient juste derrière ça et qui est connectée, c'est de savoir si, et ça fait lien avec ce que tu disais sur le fait que c'est une construction technique et non pas politique de l'acceptabilité sociale, c'est est-ce qu'il y a une offre politique, dans le cadre par exemple du système électoral, qui permet justement de proposer ces différents scénarios-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un espace d'expression politique des différents scénarios énergétiques pour la population japonaise, Ou est-ce que, du coup, en l'absence de scénario, dans ce cas-là, tout passe par des choix techniques, puisque de toute façon, il n'y a pas d'offre politique alternative?
Si, alors, le premier point, en fait, c'est en effet, il y a eu d'abord en 2007, à chaque fois, c'est le ministère de l'Environnement qui mandate des chercheurs pour sonder la population, pour savoir quel avenir pour la société sur le bilan carbone en 2050. Et donc, la première fois, donc, il y avait, en 2007, il y avait deux options, c'était le choix nature, sobre et le choix technologique. Et puis en 2012, c'était trois choix. Un où on partage, co-usage, colocation, tout ça. Un où on est plus proche de l'environnement, on est plus sobre. Et puis l'autre, plus technologie, smart grid, etc. Donc à chaque fois, oui, c'était sur plusieurs centaines d'individus via des questionnaires et des entretiens. Et on leur demandait aussi ça. Et c'est pas connecté aux politiques, en fait. C'est pas. Après, je ne sais pas exactement dans quelle mesure qui dans le gouvernement et dans quel ministère a eu écho de telle étude, etc. Mais globalement, ça serait intéressant à savoir aussi. Mais c'était du coup pour dire que l'idée que ce n'est pas légitime parce qu'on veut leur imposer ou leur faire accepter quelque chose que quelque part dans le fond, ce n'est pas ce qu'ils veulent, bah alors il y a juste une similitude au final. L'option confort, je ne change pas mon mode de vie et je me repose sur la technologie parce que non seulement c'est ce que je préfère et en plus je pense que ça va marcher. Bah voilà, il y a une coïncidence entre les deux. Et le deuxième point après, c'est que sur l'idée de faire des smart communities, etc., oui, il n'y a pas eu de processus participatif ou démocratique sur ce point-là. Par contre, ce qu'il y a eu, c'est entre 2011 et 2012, après Fukushima, un sondage délibératif qui a été mis en place par le Parti démocratique à l'époque pour demander aux gens quel avenir ils voulaient en termes de mix énergétique. D'ici 2030, est-ce que vous voulez que le nucléaire reste au même niveau, descende à 10% ou soit à 0%? Et là, la majorité des gens étaient avant et après le sondage délibératif pour 0%. Mais quand le Parti conservateur est revenu au pouvoir fin 2012, il a mis fin à l'initiative et est reparti sur le nucléaire. Ce qui était dans son programme et les gens ont voté aussi pour. Donc là, au niveau de les gens qui ne sont pas cohérents, on est contre le nucléaire, on choisit le gouvernement qui est pro-nucléaire, c'est pareil. Je pense qu'à ce moment-là, ce qu'on peut aussi dire, c'est que les gens, quelque part, ils sont très cohérents. Ils veulent des coquillages dans leur jardin, ils veulent pas de moustiques, donc ils veulent avoir des. Donc voilà, à ce niveau-là, moi je voyais la contradiction, finalement, elle n'est pas forcément si facile que ça. Je rebondis sur ce qui avait été dit tout à l'heure.
Alors, deux remarques. La première, c'est. Alors, peut-être, c'est le public dont tu parles, toi, est relativement ciblé, puisque c'est des pavillonnaires. Enfin, c'est ce qu'on comprend.
Quand on a travaillé sur du questionnaire, on a travaillé sur des échantillons représentatifs de l'ensemble littoral. Donc, on a tout type d'habitat.
Ouais.
Avec une différence claire entre habitat collectif, où il y a très peu de nuisances, et habitat individuel, où il y a beaucoup de nuisances toxiques. Et le protocole interdisciplinaire, c'était en effet pavillon, parce qu'il nous fallait une maison et un jardin à chaque fois.
D'accord. Parce que, par contre, pour toi, on a du mal à saisir s'il y a une différenciation possible des publics. C'est-à-dire que tu dis, en gros, les Japonais, pour faire simple, hein, mais on peut imaginer que, suivant certaines catégories de population, il y a des positions différentes, des choix idéologiques, des choix de vie, etc., qui puissent être différents. Et donc qu'ils puissent adopter des positions différentes et défendre plutôt un scénario qu'un autre. Et on peut imaginer que l'évolution des sociétés pousse plutôt à la différenciation des publics qu'à l'homogénéisation. Et que donc on peut aussi considérer que ça peut être un outil technique et politique d'acceptabilité. La deuxième remarque, c'est donc par rapport au débat qu'on avait tout à l'heure hein, sur la cohérence. Disons que pour fabriquer une cohérence, il faut faire un certain nombre de choix, et que ces choix, ils sont construits socialement. Par exemple, dans une des dernières vignettes, tu proposais, enfin, tu faisais un appel aux architectes et aux urbanistes, et donc il y avait deux modèles de jardin, un modèle plutôt jardin à l'anglaise, un modèle plutôt jardin à la française, avec la pelouse rase, etc. Et on voit bien aujourd'hui que ce qui est valorisé, c'est plutôt les jardins à l'anglaise. Et donc, on peut relier ça directement à une valorisation de l'individualisme, du privé, etc. etc. Hein, contrairement à un poids du public qui serait plus proche du jardin à la française. Donc, on voit bien que des choix esthétiques qui peuvent être perçus et construits individuellement ont directement des liens avec des choix politiques, sociaux, beaucoup plus larges. Donc, le travail sur les choix que vous exposez tous les deux pose sans arrêt cette question-là, c'est-à-dire de la construction sociale de ces choix. Et finalement, on a des sociétés qui produisent, qui fabriquent socialement quelque chose, et ensuite qui questionnent les individus pour vérifier que ce qu'elles ont construit correspond bien à ce qu'elles voulaient construire. Donc du coup, c'est un peu le chat qui se mord la queue, parce qu'on s'appuie sur ces sondages-là et ces questionnaires-là pour poursuivre finalement une politique qui a été commencée bien avant ces travaux-là.
En sachant que ce que tu soulignes sur la construction sociale des choix, pour moi, c'est fondamental. L'individu, il choisit pas seul. Et alors, c'est peut-être mon côté un peu bourdieusien, reliquat en la matière, mais donc du coup, l'individu, même s'il est convaincu d'avoir choisi seul, il est influencé, mais il n'est pas influencé que par la puissance publique. Oui, d'où mon idée de désinformation, mercantile sur les stratégies de diagnostication. Et pour les choix esthétiques, c'est important. C'est important et si on veut rester dans la perspective d'aide à la décision, à un moment donné, il faut infléchir sur ces faiseurs de goût, sur finalement les gens qui, très en amont, vont donner ces envies aux populations d'avoir tel ou tel type de maison, tel ou tel type de jardin. Et moi, je suis convaincue que c'est ces gens-là qu'il faudrait sensibiliser d'abord, avant les populations. Il y a cette dimension-là. Après, il y a un point qui est commun, qu'on n'a pas forcément explicité clairement, c'est le rapport au corps. Le rapport au corps, parce que, donc toi, sur la clim en particulier, j'ai eu la chance de participer au colloque mondial de sociologie à Yokohama il y a quelques années, en plein été. Et ce qui m'avait frappé, c'était en effet cette obsession de la lutte contre la transpiration chez les Japonais qui passent leur temps à changer de chemise et de cravate, à s'essuyer le visage constamment. Et là, pour le coup, on est dans la construction sociale que tu évoquais, qui a des conséquences sur l'énergie avec la clim. Mais ce rapport au corps, nous, on va le retrouver sur le rapport aux moustiques aussi. Et Bernard Picon, mon directeur de thèse à l'époque, il nous disait, mais finalement, autrefois, les gens travaillaient dehors dans les champs, habillés, couverts, et puis aller se reposer à l'intérieur dans les maisons derrière les moustiquaires. Aujourd'hui, les gens travaillent dans les bureaux climatisés et vont se reposer, donc protéger des moustiques, et vont se reposer à l'extérieur sur leur terrasse sur laquelle ils ont fabriqué plein de moustiques et exposer leur corps, malgré eux, aux moustiques. Et on voit bien comment finalement c'est une anthropologie du corps. C'est une histoire, historique, tu vois, c'est l'évolution historique du rapport au corps et des attentes concernant le corps et son bien-être qui infléchissent les consommations d'énergie, qui infléchissent l'acceptation de politiques de démostication. Et je ne sais pas, vous, spécialiste de l'habitat, de l'habité, de l'urbain, si vous avez du bagage pour nourrir ce genre de réflexion-là. Du coup, c'est moi qui pose les questions.
Mais donc, du coup, j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'a fait le commanditaire, justement, de cette réponse plus structuraliste, qu'il n'attendait? Qu'est-ce qu'il fait de quelque chose qu'il a du mal à maîtriser, du coup? Parce que un commanditaire qui peut agir sur une politique de communication et mettre des flyers dans les boîtes aux lettres, il peut être très content d'une étude. Si cette étude lui dit qu'en fait il maîtrise qu'un dixième de la chaîne des acteurs qui influent sur la question qu'il doit traiter, comment il réagit? Comment il peut faire quelque chose?
Je vais vous prendre l'exemple de la réunion de la RS Corse où ils étaient vraiment très 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 motivés. Et ils ont commencé par dire on va arrêter les flyers dans les boîtes aux lettres parce qu'on passe beaucoup d'argent pour ça, finalement ça sert à rien. Ils avaient vécu aussi directement les dérives de la désinformation mercantile parce que l'année précédente, ils avaient essayé de travailler avec les pharmacies Et en fait, les pharmacies avaient récupéré les flyers et les utilisaient pour vendre tous ces produits anti-moustiques, même en inefficace, une fortune. Donc ils ont dit, on va arrêter de mettre des flyers dans les pharmacies. Et par contre, là, ils ont activé les réseaux des uns et des autres, des différentes institutions, dans le monde du jardin, du bâtiment, de la distribution, etc. Et ils se sont dit, on va aller voir ces gens-là. On va aller travailler avec ces gens-là. Alors, à Montpellier, ils ont commencé tout doucement à le faire. Il faut savoir une chose, c'est qu'ils ne sont pas toujours très bien reçus. Ils ne sont pas toujours très bien reçus parce que là, on tombe sur les enjeux de l'économie de marché. Et c'est aussi des choses qu'on a discutées ensemble. Je leur ai dit, bon, écoutez, soit on fait la révolution éco-marxiste, moi ça me tente bien, mais j'entends bien que vous, municipalité, direction générale de la santé, c'est peut-être pas votre propos, soit on joue le jeu de l'économie de marché, en gros, de trouver des stratégies pour que la lutte antivectorielle puisse quasiment être un argument de vente pour certains distributeurs. J'ai dit, soit vous interdisez de vendre des soucoupes. Ça va être difficile. Même dans les Antilles, ils n'ont pas réussi à le faire. Ils ont réussi vraiment pendant la plus grosse épidémie de dengue. Pendant quelques semaines dans les Antilles, ils ont réussi à enlever du marché les soucoupes. Mais bon, comme quelques mois après, c'était de nouveau vendu, ça ne servait pas grand-chose. Donc je leur ai proposé, voilà, les soucoupes, vous leur proposez, à côté des rayons de soucoupes, de rajouter des sacs de sable, parce que c'est une des stratégies, c'est de remplir la soucoupe de sable, en fait. Comme ça, le moustique ne peut pas pondre ses œufs. Donc ils ajoutent des sacs de sable et ils distribuent vos flyers. Comme ça, ils participent aux campagnes antivectorielles. Et en plus, non seulement ils ont vendu des soucoupes, mais en plus, ils ont vendu des sacs de sable.
Ok, très bonne réponse.
Du coup, nous avons très rapidement, mais je pense qu'en effet, c'est un point que tu soulignes qui est vraiment important, c'est que donc, si l'action publique aujourd'hui préfère aller demander aux gens en psychologie sociale, en économie comportementale, c'est parce qu'on leur donne des réponses très classiques. Envoie telle information à tel moment, à telle personne, et ça va marcher, son comportement va changer. C'est pour ça que le message du sociologue est moins audible, je pense, en général, puisqu'on lui dit il y a plein d'acteurs, plein de facteurs, il faut lire tout ça. En effet, bon, bah, et qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et alors, par rapport à la question que tu disais, comme quoi il y aura une construction sociale des opinions qui permet ensuite de faire un sondage d'opinion pour dire que, regardez, c'est l'opinion des gens, donc on a raison. Là, dans ce cas-là, ça ne s'applique pas tellement, puisque j'ai rencontré certaines personnes qui ont fait ces sondages-là, et ils sont plutôt du côté ministère de l'Environnement, très sobriété, etc., quoi, eux-mêmes, en fait. Ils sont limite à regretter ce choix des Japonais pour le choix technocentré, et ils sont en plus sans rapport avec une action publique concrète, en fait. Donc après, c'est pas ceux qui ont fait l'étude ne cherchaient pas à faire apparaître, à construire une telle opinion. Par contre, c'est sûr qu'après, il y a plein d'acteurs qui ont fait que les Japonais ont ce choix pour la technique. Là, c'est pas que les acteurs publics, comme on a dit, c'est aussi plein d'acteurs privés. Et après, au niveau plus anthropologique ou autre, je sais pas s'il y a peut-être pas aussi peut-être une tendance naturelle à préférer avoir moins d'efforts à faire, à suer moins. Là, il y a aussi plein de choses qui sont pas forcément du ressort de l'action publique, voire pas forcément d'un acteur quel qu'il soit. Même si après ça, qu'au Japon, l'espace de 30 ans, par exemple, pour les climatisations, années 70, 3% de clim par foyer. Enfin, il y a un équipement par foyer de 3%, années 90, 150%. Et les stratégies de communication des marketeurs, la référence, le lien entre climatisation, Occident, progrès était évident, les bâtiments étaient des passoires thermiques, les nouveaux bâtiments construits, le prix des climatisations aussi a aussi beaucoup baissé. Donc c'est un ensemble de causes qui ont fait que finalement tout le monde s'est équipé alors qu'avant les gens n'en avaient pas besoin. Il faut aussi de plus en plus chaud en ville avec les îlots de chaleur urbain, etc. Donc c'est un ensemble de causes vraiment et c'est très difficile de... Voilà. Mais c'est sûr que la construction sociale du goût, c'est un point central, je pense, dans les deux interventions.
Il y a un autre lien. Les climatisations sont de plus en plus utilisées comme anti-moustiques à l'intérieur des maisons. Et j'étais dans les Antilles pour des campagnes de terrain il y a quelques temps, en plein Zika. Là. J'étais logée par quelqu'un qui avait le Zika, c'était super pratique. Je serais rentrée indemne. Et par contre, à la radio, une des annonces publicitaires qui passait le plus, c'était un distributeur de clim qui vendait clairement en ce moment, attention, Zika, équipez-vous en clim, vous serez protégés du Zika. Surtout les femmes enceintes, pensez-y à acheter ma clim.
Ça, c'est parfait pour conclure, je pense. C'est une intervention.